Bon, je pense qu'on va commencer, bien qu'il nous manque un des intervenants, mais je vais déjà vous présenter ceux qui sont ici, qui sont des auteurs de science-fiction, des créateurs d'univers, des grands créateurs d'imaginaire. Donc, à côté de moi, Camille Brisseau, la Benjamine du groupe qui écrit depuis qu'elle est toute petite, qui a publié son premier roman alors qu'elle préparait son bac, et qui publie maintenant chez La Talente et qui continue à publier chez Rajo, son premier éditeur, des romans qui touchent aussi bien un public ado qu'un public adulte. Et on avait beaucoup parlé de son dresseur de fantômes. Elle a aussi des univers plus âpres, Le vent te prendra, qui est un hommage à Émilie Brontë, revisité. Et elle en parlera, je pense particulièrement ici, de son dernier ouvrage chez La Talente, Le vagabond désert, où un univers dense a été créé. À côté de Camille, François Baranger. François Baranger, qui est un artiste aux multiples talents, puisqu'il a été illustrateur, réalisateur de films d'animation, il a été concept artiste dans le jeu vidéo, et il est maintenant entré de plein pied dans le monde littéraire avec une grande fresque publiée aux éditions critiques, Dominium Mundi, dont il nous a confié que la préparation avait été longue. Je crois que c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de préparation. Ça va être charmant si on a cette musique pendant toute la table ronde, mais on va parler très fort pour essayer de les déranger.
Ça, je te fais une chorégraphie.
Très bien. Donc la chaise vide, qui j'espère va se remplir bientôt, sera occupée par Olivier Paquet. Je vous dirai un mot sur lui quand il sera là, ce sera mieux.
Mais sera-t-elle plus pleine pour autant?
Je crois que nous avons un Laurent Whale très en forme, notre baroudeur de la science-fiction, qui a commencé par faire tout un tas de choses, de la musique, du commerce, de la brocante, et qui maintenant est à fond dans l'écriture, à la fois comme traducteur, comme nouvelliste, comme romancier. Il a quitté l'Angleterre pour adopter à la fois la France et le chapeau, mais bon, pas aujourd'hui. Et Laurent a publié un certain nombre de romans que on citera en priorité. Lesquels as-tu choisi de nous montrer? Goodbye Willy, bien sûr. Mais on va commencer par les plus anciens. On va surtout parler ici du manuscrit Robinson. Voilà, les damnés de l'asphalte. Le manuscrit Robinson, c'est pas ton premier space opéra. Il y avait Les pilleurs d'âmes, Les étoiles sans balance. On pourrait parler aussi de tout un tas d'autres ouvrages. Voilà donc. Puisque nous avons ici des créateurs d'univers, on va peut-être commencer par leur demander de nous parler de leurs univers, justement. Camille, avec Le Vagabond Désert, on a un monde totalement réinventé, redessiné. On a des sculpteurs de chair qui créent des êtres volants. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, nous présenter un petit peu l'univers que tu as mis en place ?
Alors, Vagabond Désert, en fait, se passe dans le même univers que mon premier roman chez La Talente, qui s'appelait Dresseur de fantômes. C'est un univers qui, pour moi, vraiment un patchwork d'une bonne grosse dizaine d'influences qui m'intéressaient. Le pitch, en gros, c'est un univers qui a été bouleversé par beaucoup de changements climatiques qui ressemblent plus vraiment à ce qu'on connaît aujourd'hui, et où, entre autres, l'électricité a disparu de larges portions de la Terre, dont les airs. Voilà, en faisant notamment chuter tous les avions, etc. Dans cet univers-là, en fait, dans Vagabond Désert, on va suivre le destin d'un jeune marin et d'une jeune fille qui travaille dans un cirque volant, une espèce qui s'appelle l'aérocircus, qui est une énorme flottille de ballons dirigeables, etc., et qui du coup vole dans le monde entier pour se produire devant tout le monde. Et en fait, ces deux ados vont être emmenés dans une quête à la poursuite des mystérieux sculpteurs de chair. Et en fait, l'idée, c'est que dans un monde un peu spécial, ils vont essayer de trouver leur place. Bonjour.
mange bien Épinal, mais...
Lentement.
Voilà. Donc voilà pour Vagabond Désert.
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc, François Baranger, Dominium Mundi, c'est un projet qui est né d'un poème épique, La Jérusalem délivrée. C'est un vaste empire chrétien complètement réinventé, oui. Très vaste, puisqu'il part sur Alpha du Centaure. Alors, c'est quoi cet univers ? Alors,
c'est pas tout à fait ça. En fait, La Jérusalem délivrée, c'est pas... faut pas voir ça comme une adaptation ou une transposition de ce poème épique. C'est venu plus en cours de route. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire, de tenter un mix entre l'époque médiévale et la science-fiction. Et les croisades, c'était un sujet que je trouvais assez peu exploité en fiction. Et je me disais que c'était intéressant d'essayer comme ça de créer un univers, une sorte d'univers alternatif dans le futur. Et c'est en me documentant sur les croisades que j'ai découvert ce poème. Et donc, qui est tout le monde ne le sait pas forcément, c'est un poème qui décrit de manière assez peu exacte historiquement, mais d'une manière très, très, très littéraire, la première croisade. Donc ça a été écrit au XVe siècle par un Italien qui s'appelle Torquato Tasso. Et j'ai trouvé intéressant de m'appuyer sur cette base-là pour enrichir plus le propos que pour le transposer. Donc c'était plutôt dans cette optique-là que je me suis retrouvé avec ce poème en arrière-plan. Sinon, pour l'univers lui-même, l'idée c'était d'imaginer donc dans un futur... assez relativement proche quand même, hein, d'ici deux siècles, après une guerre terrible qui a ravagé la surface de la Terre, comme on en voit souvent dans ce genre de récit, la société humaine s'est relevée sur des bases archaïques et a remis sur pied, par la force des choses, un système féodal tel qu'on le trouvait au Moyen-Âge, juste avant les premières croisades. Et donc, bah, par la force des choses, comme à cette époque-là, on a une espèce d'empire chrétien qui domine ce qui reste du monde. Il ne reste pas grand-chose, pour dire la vérité. Et justement, dans cette optique de trouver à nouveau des terres vivables pour l'humanité, on lance une mission d'exploration vers l'étoile la plus proche de la Terre, qui est Proxima du Centaure, autour de laquelle on sait qu'il y a des planètes habitables, mais on ne sait pas que l'une d'elles est habitée. Et c'est en arrivant sur place qu'on découvre qu'il y a déjà une civilisation, qui est un peu archaïque elle aussi, et en prenant contact avec cette civilisation, qui est humanoïde mais qui n'est pas humaine, on découvre dans l'une de leurs cités un temple, sur lequel, au fond duquel il y a une croix chrétienne avec un homme crucifié dessus, et à l'intérieur on découvre une dépouille qui manifestement est celle du Christ. Et donc aussitôt le pape de l'époque, du futur, réclame la possession du temple au nom de l'humanité, le seul vrai peuple chrétien de l'univers, les autochtones refusent et on déclenche une guerre, une nouvelle croisade. Voilà, ça c'est le point de départ de l'univers.
On y reviendra. Je ne vous avais pas présenté Olivier Paquet parce que je préférais le faire quand il serait avec nous. Donc, Olivier Paquet, il enseigne les sciences politiques et la science-fiction. Il est aussi spécialiste des mangas. Et il a commencé sa carrière d'auteur en publiant des nouvelles très remarquées, les premières en particulier dans la revue Galaxy. Sa nouvelle Synesthésie obtient le Grand Prix de l'imaginaire de la nouvelle en 2002. Et depuis, il a écrit bien d'autres choses. Il a écrit des romans tout en continuant les nouvelles. On peut citer Structura Maxima, Les Loups de Prague, mais je pense que dans cette table ronde, on va surtout parler... du grand univers du Melkin, ce grand vaisseau, un space opéra en trois volumes publié par la Talente, qui a obtenu le prix Julia Verlanger l'année dernière, en 2014. Alors, comment est né l'univers du Melkin et une question qui, moi, m'intrigue, et c'est l'occasion de la poser, est-ce que le projet était d'écrire une histoire vue du point de vue d'adolescent dès le départ, ou est-ce que c'est la thématique du récit, puisque c'est un récit qui parle beaucoup du conditionnement, est-ce que c'est la thématique du récit qui l'imposait, est-ce que c'est l'univers mis en scène, ce vaisseau école, qui obligeait, de par le principe de ce qui s'y passait, à mettre en scène des jeunes.
Alors, il faut savoir que donc, dans l'univers du Melkin, je regarde une civilisation sur 30 ans. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement, de par ma formation un peu de sociologie, de regarder comment une société évolue. Puisque, pour simplifier, on est dans un univers où l'humanité a quitté la Terre depuis un temps immémorial et s'est répartie dans une portion de galaxie sur des tas de planètes où, sur chaque planète, elles ont développé des cultures particulières, des cultures qui ressemblent aux cultures humaines, cultures indiennes, asiatiques, allemandes, tout ce que vous voulez. Et je voulais montrer que se passait, on a ce point de vue de départ, et comment ce point de vue évolue, comment cette société évolue. Et donc, ce que je voulais faire aussi, c'est montrer l'évolution à la fois de la société, mais à travers des individus. Et j'ai toujours, ce que je trouve toujours dans les sagas, ce qui m'a toujours impressionné, c'est j'avais ce souvenir. Il y a une saga qui reste pour moi un monument, qui est de la fantasy, qui est Terre-mère d'Ursula Le Guin, où on voit Ged, qu'on voit jeune, qu'on voit vers une trentaine d'années dans le deuxième tome, et qu'on voit Archimage vieux dans le troisième. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que dans le troisième tome, cet Archimage, donc ce jeune qui avait toujours voulu avoir de plus en plus de pouvoir, de pouvoir magique, qui avait cette envie de puissance grâce à la magie, donc dans le troisième tome, cet Archimage vieillissant, il est tellement sage qu'il n'utilise plus la magie. Et qu'en fait, il est au-delà de ça. Il n'utilise plus son pouvoir. Il y a quelque chose, il est au-delà de ça. Et donc, c'est cette chose-là qui m'intéresse. Comment on vieillit, en fait. Comment on devient sage. Comment on apprend que, finalement, nos erreurs nous ont construites. Comment tout ça a évolué pour que, finalement, mes personnages, quand ils ont 45 ans, bien sûr, ils ne sont plus les héros d'alors, mais ils ont appris, ils sont enrichis aussi de tout ça. Et que c'est à la fois une perte et une richesse. Et c'est ça qui m'intéressait. Et comme cette civilisation qui bascule, elle était un point de départ. Elle bascule parce qu'à un moment, on invente la communication instantanée. Et ça m'intéresse. Et ce qui arrive à la fin, c'est à la fois le résultat de tout ce qu'on a vécu, et c'est encore autre chose après. Donc c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est la notion du temps et de l'évolution des sociétés qui m'intéresse.
Ça nous concerne tous, hélas. Laurent met en place des univers divertissants, joyeux, généreux, festifs. Le personnage lui-même, si vous l'avez croisé, vous aurez constaté qu'il n'est pas fondamentalement triste. Laurent ressuscite le plaisir des aventures de l'âge d'or du fleuve noir, par exemple, un petit peu dans le même esprit. Et il y a un parfum de Far West qui plane sur tes récits. Alors, pourquoi ne pas avoir écrit des aventures au Far West, et pourquoi avoir choisi le space opéra? Qu'est-ce que c'est créer un univers? Quelles possibilités ça t'offre?
Excellente question. Pourquoi avoir choisi le Far West? Alors, j'ai le Far West dans un roman qui est le roman qui s'appelle Goodbye Billy, qui est un thriller historique sur la base de la vie de William Harrison Bonnet, dit Billy the Kid, qui est un petit peu hors sujet là, et le suivant est celui qui est affiché là-bas, qui est là, je crois, qui s'appelle Le Manuscrit Robinson, qui est aussi un thriller historique sur la base de la vie du réel Robinson Crusoe, qui s'appelait Alexander Selkirk, et qui n'a pas eu la vie trop facile non plus. Voilà. Et en ce qui concerne le Space Op, c'est avec des romans comme par exemple Le Chant des Psychomorphes ou Les Pilleurs d'âmes, où j'ai inventé effectivement, notamment dans Le Chant des Psychomorphes, qui était dans la collection Rivière Blanche, c'est-à-dire qui reprend un peu le code couleur que vous avez dans celui-ci, j'avais inventé une civilisation pas futuriste, mais une civilisation hautement technologique, qui possédait un certain nombre de planètes dans un certain nombre de galaxies, et qui s'était heurté, qui avait rencontré un certain nombre d'aliens. On nous dit ça n'existe pas, et puis juste au jour où on tombe dessus, quoi, voilà. Les premiers explorateurs, quand ils ont vu le premier noir de leur vie, ils ont carrément paniqué, c'est juste pas possible, quoi, voilà. Donc, il y a ce type de rencontre dans beaucoup d'univers différents sur le champ des psychomorphes. Ensuite, j'ai basculé un petit peu dans le post-apo, qui est un petit peu dans le même esprit, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans le post-apo ? On réinvente un univers qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le nôtre, et puis on le dégrade d'une manière plus ou moins évidente pour arriver à une situation qui peut paraître totalement réelle et dont le but du jeu, en ce qui me concerne, c'est qu'elle paraisse le plus réelle possible. Donc créer une civilisation qui est la nôtre, mais dégradée dans 70 ans, par exemple, pour celui-ci, où les gens vont essayer de se regrouper en communauté pour survivre face à une adversité qui est d'ordre climatique, d'ordre d'agression pure et dure, où ils vont essayer de se sortir de là avec, j'allais dire, leur et leur couteau pour réussir à survivre. Donc c'est pas à proprement parler là une création d'univers comme dont parlait Olivier ou François ou Camille. Il s'agit de faire un univers à partir d'un univers qu'on a déjà et le dégrader. Ça répond à ta question ?
Non, pas du parfaitement. Tout, Mais vous avez tous des démarches très différentes apparemment dans la manière dont vous créez ces univers et dont vous les élaborez. Camille, par exemple, elle a mis en place un univers très attachant avec ces dresseurs de fantômes. Et tu nous disais, tu as eu envie de le prolonger finalement et de le développer. Comment naît cette envie ? On est trop malheureux quand le roman est terminé, on a envie de le ressusciter ? Comment ça se passe ?
Alors en fait, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. J'avais souvent entendu des écrivains qui disaient qu'ils ne pouvaient absolument pas quitter leur univers, leur personnage était trop attachant pour eux. Et j'avoue que ça me faisait un peu rire. Je pensais que ce n'était pas vrai, que c'était du blabla. Et en fait, ça m'est arrivé sur Dresseur de fantômes. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. Moi, en le construisant, j'ai vraiment voulu attacher tout un tas d'influences qui étaient importantes pour moi. Des images qui auraient pu paraître dans un roman pas imaginaire, qui auraient pu apparaître décousues. Et moi, justement, ce genre me permettait de lui donner une certaine cohésion. Et en fait, je me suis aperçue à la fin qu'en terminant le Dresseur de fantômes, je ne sais pas si vous le voyez, mais il n'est pas énorme. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais envie de dire d'autres choses. J'avais surtout envie, en fait, de visiter d'autres endroits de ce globe. Et voilà, donc je suis partie vraiment là-dessus, sans aucune histoire au début. Et puis, des personnages que j'avais déjà commencé à effleurer dans le premier roman ont grandi un petit peu. Et ça s'est fait vraiment de manière assez autonome par rapport à moi. Et en fait, c'était plutôt bien. Donc... voilà, et je me dis maintenant encore, j'ai encore l'impression que j'ai peut-être des choses à explorer dans ce monde-là. Là non plus, j'ai pas encore d'histoire, j'ai juste l'envie. Donc on verra pour la suite.
Donc c'est bien l'univers qui crée l'envie, plus que les personnages ou l'histoire. On peut ressusciter l'univers avec d'autres personnages, d'autres aventures. François, Dominium Mundi, on sent que c'est un projet vaste et puis il a déjà rempli ton esprit, tu as eu envie d'y travailler pendant longtemps déjà, donc on imagine que ça n'est pas un one shot. Jusqu'où tu veux aller dans ce...
Ah si, c'est le contraire. Moi en fait c'est le contraire de Camille, c'est-à-dire j'ai passé des années dessus sans même tellement me poser la question de savoir s'il allait être publié ou pas, j'avais envie de le faire, c'était le challenge quoi. Et du coup, j'ai vraiment... il y a ce tome-là et le deuxième, ça fait 1400 pages, j'ai l'impression d'avoir tout dit. J'ai vraiment plus envie d'y revenir. Alors, il ne faut jamais dire jamais, hein, peut-être dans un lointain avenir, j'aurai d'autres idées qui vont revenir, et on ne sait jamais. Mais c'est vrai que j'avais cette envie d'aller jusqu'au bout de l'idée, d'explorer toutes les facettes des personnages, toutes les interactions possibles. J'ai pris le temps pour le faire, c'est pour ça que ça a été aussi long. J'ai pas forcément des choses nouvelles et passionnantes à redire sur la question. Quoi. D'autant que c'est comme c'est un diptyque, l'histoire se boucle complètement, se termine entièrement. Et puis il y a même dans la structure, j'ai fait attention à ce que le début réponde à la fin d'une manière un peu symétrique. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment clos, qui est vraiment terminé.
Mais on peut imaginer d'autres choses, parce que par exemple Olivier, son univers du Melkin, une fois qu'il a commencé à se mettre en place, on sent bien que la trilogie est loin d'avoir épuisé ton intérêt. Il y a des nouvelles dans l'univers du Melkin, il y a différentes formes de récits. Alors jusqu'où tu veux aller et pourquoi Est-ce que les formes de récits différentes sont importantes pour meubler un univers?
Alors, il y a plusieurs choses, parce que la trilogie, elle est conçue, donc comme on suit une société sur 30 ans, on voit tous les 15 ans. Donc, chaque tome, c'est 15 ans plus tard. Et évidemment, il reste des trous. Pour reprendre encore ce que disait Termer, si vous connaissez l'univers de Termer d'Ursula Le Guin, c'est un archipel. Et elle raconte qu'elle aime se déplacer sur cet archipel et voyager d'île en île. Et elle peut faire des nouvelles sur chaque île. Et moi, j'ai un peu le même système, parce que comme en fait sur chaque planète, il y a des cultures différentes, j'ai envie d'explorer ces planètes et ces cultures. Et j'ai une culture, par exemple, de type mongol. Mes mongols, ça reste des nomades, sauf que ce sont les îles qui se déplacent sur la steppe. Donc vous avez Oulan-Bator qui se déplace sur des pattes, sur une steppe. J'ai un monde qui s'appelle, qui est en fait une station spatiale, qui réplique Versailles, etc. Et pour répondre sur la question de la nouvelle, l'avantage de la nouvelle, c'est juste une vision comme ça, parce que les histoires d'une nouvelle, si on écrit une nouvelle, c'est parce qu'on ne va pas écrire un roman. Et parce que la nouvelle a sa propre énergie, il y a quelque chose de particulier. Moi, j'adore écrire des nouvelles. Et alors, l'avantage quand on a écrit aussi le Melkin, c'est de se dire, je vais pouvoir écrire des nouvelles sans devoir toujours expliquer le monde. Parce que quand on écrit une nouvelle de science-fiction, ce qu'on a envie aussi, c'est d'enlever toutes les explications sur le monde. Parce qu'il faut qu'il n'y ait plus que les personnages, l'atmosphère, tout ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'aime écrire des nouvelles sur le Melkin, en disant, j'ai expliqué, reportez-vous, et puis voilà, j'ai les personnages, j'ai les cultures, et j'ai envie d'explorer d'autres cultures, de les explorer, parce que l'avantage, c'est que j'explore ces cultures, et je les décale un peu avec le futur, parce que par exemple dans cet univers du Melkin, donc l'humanité a quitté la Terre, et puis il y a un vaisseau qui en route a disparu, et c'était le vaisseau où il y avait toutes les ADN des chevaux. Donc il n'y a plus aucun chevaux terrestre qui existe, mais sauf qu'il y a des cultures qui sont basées sur les chevaux. Et donc comment dans ces cultures on a remplacé les chevaux par de la mécanique, par des motos. Par exemple, j'ai des carrosses austro-hongrois qui sont tirés par des motos. Donc ce genre d'invention, on va décaler et mélanger à la fois le passé humain et le futur. Et c'est ça qui m'amuse, et c'est amusant de le faire dans des nouvelles. Sauf, il y a juste une exception, là je vois sur l'écran, il y a Bleu Argent, qui est un young adult, qui est un one-shot, qui se situe dans le même univers que le Melkin. Et là, c'était juste une phrase dans le tome 1. J'avais juste ce mot qui s'appelait « Les déclameurs de Poeia ». Et je me dis, mais c'est qui ces gens? Parce que j'avais dit ce mot, et c'est qui ces gens? Et donc, j'ai voulu écrire l'histoire de ces gens. Et c'était ça, comme ça. Parce que il y a un processus inconscient dans l'écriture. Et donc, j'avais écrit ça sans savoir quel était vraiment ce peuple. Et je me suis dit un jour, tiens, j'ai envie d'écrire, j'avais ce mot, cette phrase, comme ça, dans le roman. Allez, j'ai voulu expliquer, chercher qui c'était. Donc j'explorais, sauf que je n'ai pas une lunette d'astronome, j'ai mon cerveau et mon imaginaire pour découvrir.
Oui, Laurent, est-ce qu'à chaque fois tu as envie de partir sur un nouveau projet? Est-ce que c'est le plaisir de la nouveauté? Quand est-ce que c'est... Tu as écrit des nouvelles quelquefois, mais apparemment tu préfères les romans actuellement. Quel est ton plaisir? Est plutôt dans l'approfondissement ou dans le fait de te lancer un nouveau défi à chaque fois?
Il y a un peu des deux, en fait, parce que je fonctionne par série au niveau des romans. Alors c'est vrai, j'écris peu de nouvelles. J'en ai publié, je sais pas, peut-être une petite 15 ou 20, un truc comme ça. Mais les romans, je les décline en fait comme, en ce qui concerne les deux séries principales, donc la série des étoiles sans balance et la série des rats de poussière, à chaque fois c'est une histoire complète à l'intérieur d'un. On n'a pas besoin de lire le premier pour comprendre le second, parce que je les décale dans le temps, donc il y a un petit artifice qui fait, par exemple, dans les étoiles sans balance, cet univers post-apocalyptique, qui est la saga d'une famille, en fait, d'une communauté. Chaque roman est décalé dans le temps d'environ 15 ou 17 ans. pour qu'on voit bien l'évolution de ce fameux monde qui a été créé dans le premier et qu'on voit d'année en année comment ça se décline. Même à l'intérieur d'un tome, ça se décline, mais ça se boucle, ça peut parfaitement se lire tout seul. Ce que j'aime, c'est avoir des choses indépendantes. Alors c'est peut-être un petit coup de me dire je ne veux pas m'enfermer dans un univers pendant X bouquins. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire X bouquins sur un même univers ou si même j'aurai assez de choses à dire pour m'intéresser moi et donc intéresser le public derrière, parce que si j'écris un truc qui ne m'intéresse pas moi, ça n'intéresse personne en règle générale. Voilà. Donc j'essaie de m'intéresser à mon truc et pour être sûr que je m'y intéresse, je me fixe un objectif, roman par roman, c'est un. Donc c'est un one shot, mais si j'ai encore plein de choses à dire, parce qu'au fil de l'écriture d'un roman sur 500 ou 600 pages, vous trouvez à un moment donné, ah ouais, je pourrais me barrer de ce côté-là, je pourrais faire des trucs comme ça, etc. Vous prenez des notes au fur et à mesure, c'est ce que je fais. J'ai un cahier spécial avec de la doc dedans et tout ça, et c'est mon cahier de bifurcation, en fait. Je pars dans un truc et je me dis, oh là, là, il y a un virage qu'on pourrait prendre, mais pas là, parce que c'est pas cohérent, mais bon, je garde l'idée, quoi. Et que je traite du post-apo, ou même en ce qui concerne la série de thrillers historiques, c'est la même chose. Je fais des one-shots qu'on peut lire séparément, et là, ça me plaît depuis quelques années, j'en rajoute à chacune des séries, un coup sur deux, un coup sur l'une. J'écris en général un roman par an, à peu près, un roman par an, voilà. Donc, mais en revanche, pourquoi pas beaucoup de nouvelles ? Parce que j'ai l'esprit qui est complètement phagocyté par l'écriture du roman. Quand je rentre dedans, je suis happé par l'univers, par l'ambiance, et je ne peux pas penser à autre chose, quoi. Donc ça me prend environ 8 mois pour écrire un roman comme ça, en comptant la documentation qui est assez importante parce que j'aime bien que les univers soient extrêmement cohérents. Donc ça me prend environ 8 mois, mais il y a quand même de la réflexion autour. Et puis il ne faut pas oublier que par exemple on est ici, pendant que je suis ici j'écris pas, mes camarades non plus. Voilà. Quand on a d'autres choses, il y a beaucoup de promos, il y a des salons. Là, ça fait je ne sais pas combien de temps, j'en fais à peu près un par semaine. Donc, voilà. Donc en dehors de ici, j'ai très peu de temps pour continuer les choses. Donc je me concentre sur un univers, j'essaye de le développer au maximum de manière le plus cohérente possible, la plus crédible possible. Voilà. Et pourquoi je ne fais pas de nouvelles ? Ben voilà, parce que soit on me les demande, quand on me demande une nouvelle, je ne fais pas de nouvelles spontanément. Ou alors celles que j'ai fait spontanément, je les garde pendant des années dans un tiroir, enfin un tiroir virtuel, dans un ordinateur quelque part. Et puis tout d'un coup, je vois passer un appel à texte et je me dis, tiens, mais je n'ai pas écrit un machin là-dessus. Et donc je vais chercher dedans et je retrouve le truc qui correspond à l'univers de l'appel à texte. Et je regarde si j'ai besoin de modifier ou pas, ou pour ajuster un petit peu, quoi. J'écris, je réponds très rarement aux appels à texte parce que je trouve ça contraignant, machin, quoi. Donc j'ai placé, l'année dernière, c'est exception, j'ai placé 2 ou 3 nouvelles qui étaient dans des tiroirs, et on me balance un appel à texte là-dessus, ah bah tiens, ah bah si, j'ai un truc pour toi, tiens. Voilà. Et hop, et on, voilà. Mais donc là on est loin de la création d'univers, mais ça répond juste à pourquoi t'as pas fait beaucoup de nouvelles, quoi. C'est pas parce que je suis une grosse feignasse, hein, c'est parce que, voilà, il y a juste pas assez de temps, quoi.
Alors, pour revenir sur les univers que vous créez, bon, si vous êtes regroupés dans cette table ronde, c'est parce que vous avez tous les quatre un plaisir évident à vous situer ailleurs, à ne pas écrire que sur notre bonne vieille planète dans un futur proche et prévisible. Donc, sans doute, vous avez du plaisir à peupler vos univers. Et les peupler, j'entends... créer éventuellement une faune, une flore, avoir une humanité qui n'est pas exactement l'humanité que nous connaissons, avec des changements, des mutations, des transformations, et peut-être aussi envisager de rencontrer des créatures différentes, des extraterrestres. Alors, voilà, comment vous peuplez vos univers, qu'est-ce que vous aimez à y mettre ?
Alors moi, j'ai pas d'extraterrestres, pas trop de créatures bizarres non plus. Pardon ? Des humains différents, âgés. En fait, donc, pour l'univers de Dresseur de fantômes et de Vagabond Désert, c'est vraiment notre planète, mais qui est un peu chamboulée, ce qui me permet de jouer avec l'esthétique des pays, de déplacer des villes sans trop de problèmes, etc. Et les humains, forcément, ont été un petit peu impactés par tous ces changements, géographiques, etc. Et en guise de mutation, on a effectivement une corporation qui est assez mystérieuse et qui a le pouvoir d'agir sur les corps humains, de les modifier. en créant par exemple des hommes palmés ou des hommes ailés, tout simplement en fait, pour les adapter à leur nouveau milieu. Mais c'est un peu tout ce que j'ai en termes d'évolution. Le reste, ça reste des bons vieux humains, tout comme ce qu'on connaît. Et voilà, et pareil pour la faune, pareil pour la flore. Là, je n'ai pas forcément fait travailler mon imaginaire à fond là-dessus.
Oui, ceci dit, des sculpteurs de chair, on en croise assez rarement à l'heure actuelle. François, l'invention
Moi, en fait, c'est assez curieux, parce que comme j'ai deux parties qui sont très différentes, c'est pas les mêmes problématiques d'une partie à l'autre. Le premier tome, c'est le voyage vers la planète. Donc c'est une espèce de huis clos dans un vaisseau titanesque qui fait plusieurs kilomètres, où il y a 1 million de personnes à bord, donc c'est vraiment quelque chose de démesuré. Et en même temps, c'est un huis clos, un peu comme on pourrait faire un huis clos à bord d'un porte-avions géant ou d'un sous-marin nucléaire, j'en sais rien. Et où donc tout reste profondément humain. Ce sont des codes sociaux, ou c'est de la technologie, ou c'est des divertissements, ou des choses comme ça, qui sont juste transposés, modifiés par rapport à ce qu'on connaît déjà. Alors que la deuxième partie, qui commence au moment précis où ils débarquent sur la nouvelle planète, on change complètement de problématique, puisque là, effectivement, il faut inventer une planète inconnue, et une civilisation au contact de laquelle ils vont aller. Mais je ne me suis pas trop focalisé sur l'invention débridée, parce qu'en fait, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a une espèce d'ivresse quand on essaye d'imaginer un univers inconnu comme ça, où on se laisse, plus on y réfléchit, plus on trouve des idées, et on finit par être capable d'écrire une encyclopédie complète sur le sujet, et j'ai l'impression que ce n'est pas ça forcément qui intéresse le lecteur. Et que ça doit être plus suggéré en trame, en toile de fond. On doit le sentir au travers des événements plus qu'on doit le décrire. Et donc moi, ce qui m'intéressait dans cette deuxième partie, c'était d'essayer de montrer ce que c'est que l'incompréhension entre deux peuples qui n'ont rien à voir. Mais finalement, ça, on pourrait le trouver dans n'importe quel... exemple de l'histoire humaine, que ce soit, je sais pas moi, la conquête de l'Ouest où on a les pionniers américains ont massacré la culture amérindienne en grande partie sans vouloir la comprendre. C'était vraiment deux univers qui ne pouvaient pas se comprendre. On peut le trouver ça dans toutes les guerres coloniales, dans toutes les guerres de conquête. Et c'était ça, c'est dans cette optique là que j'ai essayé d'imaginer cette civilisation alternative. Qu'est-ce qui pouvait faire que les humains du futur, que j'imagine, n'allaient rien comprendre à ce qu'il y avait en face d'eux, et souvent, ce qu'on ne comprend pas, on le détruit. Voilà, c'était dans cette optique-là.
Olivier, lui, il n'a pas pu y couper, parce qu'il y a plein de planètes différentes et plein de ramifications.
Oui, mais sur la question de peupler, c'est-à-dire que quand on est sur un space-op avec plein de planètes, le problème de l'extraterrestre, c'est que bien souvent... ce sont en fait des humains avec un masque. C'est-à-dire que bien souvent, quand on rencontre un extraterrestre, il a une sagesse. Alors soit c'est une sagesse qu'on se rend compte, c'est une sagesse de la nature type amérindienne, soit c'est une sagesse style le sage bouddhiste zen. Donc on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des humains avec un masque, avec trois yeux, etc. Mais bon, ce sont en fait des faux humains, des faux aliens. Donc, quitte à y aller, autant y aller sincèrement. Donc, ce qui fait que moi, j'ai choisi que ces humains aient des cultures identifiables. Donc, de ne pas utiliser ça. Mais, dans cet univers du Melkin, il y a quand même une race d'extraterrestres. Les Samaladi. C'est la seule race rencontrée par les humains. Et ce sont sans doute les extraterrestres les plus décevants qui soient, parce qu'en fait, ils ont l'apparence des gens... l'apparence que l'on désire, c'est-à-dire que vous les rencontrez, ils façonnent leur apparence pour être la personne que vous désirez rencontrer, et rencontrer, pour être simple, sexuellement. Ce qui fait que dans cet univers du Melkin, vous avez une planète qui est en fait un bordel interstellaire.
Et alors, on donnera l'adresse à la sortie.
Le vaisseau université, le Melkin, envoie ses élèves sur cette planète. Et envoie ses classes dans ce bordel parce que ça sert d'apprentissage sexuel, parce qu'en fait on s'aperçoit, ces extraterrestres, ils ne s'expriment pas avec un langage tel que le nôtre. En fait, ils utilisent des drones ou des choses pour pouvoir avoir un langage humain. Mais en fait, leur langage, c'est les caresses. Et donc, ils établissent une communication avec ces humains à travers les caresses. Et c'est aussi, pour ces générations d'élèves du Melkin, la possibilité, une fois que, ben, pour faire simple, ils ont tiré leur coup, une fois que voilà, le premier truc est fait, ils reviennent chaque année, parce que ce qui est bien, c'est que le vaisseau revient chaque année sur cette planète, et en fait, ils apprennent que, à part avoir tiré son coup, ben, le sexe, c'est autre chose. Effectivement, c'est le contact corporel, c'est les caresses, c'est la communication entre deux êtres à travers ça. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a cet aspect-là qui est assez fun, quoi, de faire ce langage de caresse, mais que aussi ça a une importance pour l'intrigue jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en plus, ce n'est pas simplement un gadget, et c'est ce qui va, à la fin, sauver l'humanité. Donc je peux dire que j'ai créé un univers où les caresses sauvent l'humanité.
C'est beau. Est-ce que tes caresses sauvent l'humanité aussi, Laurent, ou as-tu d'autres manières
ça,
de travailler?
C'est une question un peu piège. Non, moi, j'ai pas de... Enfin, d'une certaine manière, qu'est-ce qui se passe quand on met un petit peu d'amour dans un roman, un petit peu de douceur dans un monde de brut, comme dans un monde post-apocalyptique? On a tendance à croire à certains moments qu'effectivement, les caresses peuvent sauver l'humanité, parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a plein de bastons, et tout ça, machin. Et à un moment donné, les mecs, il est dans un coin, il a des bleus de tous les côtés, et puis il y a une infirmière qui est très belle et qui pleure, tout ça, comme dans les chansons de Renaud. Et donc, il y a un petit peu de douceur là-dedans, quoi, voilà. Pendant qu'elle lui recoue un bras et tout, bon, ils discutent, mais bon, ça va plus profondément que ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est quand même c'est plus poussé que ça. C'est-à-dire qu'il y a une romance, de toute façon, dans chacun de mes trucs, il y a forcément au moins une romance. Il y a un peu de sexe, un peu de suspense, voilà. Mais forcément, effectivement, quelque part, c'est pas du tout. Tu pensais que c'était ta question bête de la table ronde? Ben non, pas du tout. Parce que effectivement, les caresses, l'amour, quelque part, ça sauve l'humanité de ses instincts les plus bas, les plus destructeurs. Et ça peut survenir à n'importe quel moment. Hein. Tout d'un coup, vous êtes derrière une mitrailleuse et vous rendez compte que la jeune personne qui vous approvisionne en bande de cartouches, elle est tout à fait charmante. Voilà. Il y a deux solutions, ou vous décidez d'en discuter plus tard, ou vous mourrez tous les deux parce que vous tirez à côté. Bon. Oui, 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 j'ai choisi à dessein cette expression.
Bon, je crois qu'ils sont bien partis, mais il nous reste une dernière question dont j'aimerais bien qu'on discute un peu. C'est le rapport que vous avez avec toujours ces univers que vous créez. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous accroche vraiment dedans? Comment vous en rêvez? Est-ce que c'est par les personnages, les histoires de vie, les créatures, donc les gens qui sont dedans? Ou est-ce que vous avez un rapport très sensoriel avec vos univers? Est-ce que vous voyez des couleurs, vous sentez des odeurs quand vous y pensez? On parlait d'immersion tout à l'heure. L'immersion, habituellement, c'est sensoriel. Comment vous le ressentez?
Alors moi, c'est effectivement sur le côté sensoriel, mais sur vraiment un sens. Pour moi, c'est ce qui est très important dans la construction d'un univers, c'est l'aspect visuel. On parle d'univers de science-fiction. Je ne suis pas très très douée dans tout ce qui concerne le côté science. Donc je ne suis pas certaine que mon univers soit très rationnel et très scientifiquement au point. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que quand on ouvre la page, qu'on puisse le voir comme je l'ai vu. Et du coup, moi, je fais vraiment très très attention à ça. Je veux bâtir des images et voilà. Après, ça s'assemble, ça fait quelque chose. Mais c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment cet aspect visuel qui m'intéresse tout particulièrement. C'est mon point de départ. Les personnages viennent après, dans cette série-là en tout cas. Hein. Mais voilà, je m'appuie là-dessus. Et ça me fait vraiment un décor, et pour moi, bâtir l'univers, il faut vraiment que ce décor soit là, soit en place, pour que j'y croie moi, et ensuite que ce soit du coup, que ce côté crédible puisse se transmettre au lecteur. Après, c'est vrai que le reste des sens est moins important à mes yeux. Tout commence vraiment par la vue.
Et Et alors justement, quand le sens visuel est le plus concerné, le plus important, comment on réagit quand on voit la couverture de ces livres? Ça doit être une grande surprise, la couverture, c'est un autre rapport au texte.
C'est une sacrée surprise, oui. Ça dépend des fois. Il y a des moments où c'est une réussite, où on a l'impression quand même que l'illustrateur est allé plus loin que ce qu'on avait pensé, ou qu'il retranscrit parfaitement, voire mieux. Et il y a des fois où ça ne marche pas. Donc, où il a vu quelque chose de différent. Mais bon, une vision, c'est quelque chose de très personnel, donc ça peut être interprété d'un milliard de manières. Et après, bon, c'est une question de goût. J'aime ou j'aime pas. Si j'aime pas, tant pis.
Et alors, François, c'est de l'immersion sensorielle ou c'est les personnages?
Moi, les couves, je ne suis pas trop surpris parce que c'est moi qui les fais. Donc, ça va. Mais non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Camille sur le côté... on a envie que le lecteur voit exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire de ne pas trahir sa pensée, de ne pas se tromper sur ce qu'on a vu. Et j'ai l'impression que c'est ça qui demande le plus de travail. C'est-à-dire d'essayer d'être précis dans ce qu'on veut retranscrire sans être lourd. Et moi, on me demande souvent, parce qu'en fait, mon métier de base, celui qui me fait vivre, c'est illustrateur. Et on me demande souvent quelle est la différence pour moi entre écrire ou dessiner, et je réponds toujours qu'il n'y en a pas. En fait, si la technique est différente, si l'outil n'a rien à voir, évidemment, le processus créatif, lui, est pratiquement le même. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de faire deux choses différentes quand j'imagine une histoire ou quand je conçois une illustration. Il y a forcément dans les deux cas un très intense travail cérébral, mental, intellectuel, de se représenter la scène, de se représenter l'univers, de se représenter ce qui va se passer, et de se le représenter de manière suffisamment forte pour qu'on soit capable de le retranscrire de manière précise. Donc il ne suffit pas de réfléchir rapidement à voilà, ça va prendre place à tel endroit avec tel type de lumière, et puis c'est tout. Non, il faut vraiment essayer de se représenter l'endroit ou la scène ou même l'univers de manière générale comme si on y avait été presque et comme si on s'en souvenait, comme si on faisait un récit de voyage. Et pour ça, peut-être que ma formation d'illustrateur m'aide quand j'écris parce que ça me permet d'avoir une représentation visuelle intérieure assez précise que j'ai plus qu'à essayer de retranscrire après à l'écrit.
Vous avez probablement une approche assez cinématographique tous les deux. En tout cas, on sent l'importance de l'image dans votre approche. Ça doit être assez différent pour Olivier Paquet quand on a écrit une nouvelle comme Synesthésie, dont le principe est justement le mélange entre les registres sensoriels. Je pense qu'on n'est pas d'abord visuel, ou pas seulement en tout cas.
Oui, et en plus, enfin, quand c'est le Melkin, c'est-à-dire que j'utilise les cultures. Donc, pour écrire ces planètes, je suis obligé de m'immerger dans des cultures, je me dis, amérindien, et donc je m'intéressais aux sons, aux odeurs, à la nourriture, ou ce genre de choses. Moi, j'aime vraiment tout, mélanger les... Je trouve ce qui est formidable quand on écrit par rapport au cinéma, c'est justement d'offrir au lecteur autre chose qu'uniquement le son et la vue. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'offrir une palette sensorielle très, très forte. Et justement, notre approche des cultures, quand on va à l'étranger... Pour prendre un exemple personnel, c'était l'année dernière, je suis allé à Rome. Et il se trouve que, quand je suis arrivé, il pleuvait un peu. Et donc, pour moi, j'associe Rome à l'odeur des sapins, de cette odeur mouillée de sapins, de conifères. Et alors, par contre, quand je suis revenu à Paris en avion, la première odeur qui m'est arrivée, c'est le RER Roissy Charles de Gaulle, donc l'odeur agréable du RER. C'est-à-dire, on n'a vraiment pas envie de rester. On comprend et on doit s'excuser auprès des étrangers quand ils viennent pour prendre l'air, pour revenir Paris, ville lumière. Mais alors l'odeur du RER, bonjour. Donc, si je veux faire voyager mes lecteurs dans d'autres cultures, donc j'ai vraiment envie de leur faire partager pas seulement la vue et l'ouïe, mais aussi tous les autres sens. J'ai toute une séquence dans l'un des tomes où j'ai deux personnages, deux anciens élèves du Melkin, qui parlent « Ah, tu te souviens de tel plat qu'on a mangé ? Ah oui, c'était des bactéries sous une couche de goudron, c'était absolument délicieux, etc. » Donc, et vraiment d'essayer de leur montrer voilà, le nouveau, l'étrange, c'est ça, c'est aussi se nourrir, c'est les odeurs, c'est... Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une part très importante de mon travail, effectivement. Et alors, juste une dernière chose pour les couvertures. Parce que quand même ça, hein, parce que j'ai des couvertures qui ont été illustrées par Manchu. Manchu, pour moi, c'est un rêve de gosse. C'est-à-dire que je fais partie de cette génération qui a vu Ulysse 31. Enfin, voilà, donc, bref. Et donc, quand il m'a dit, oh, c'est Manchu qui était illustrateur, voilà, imaginez, bon, bref. Et donc, la trilogie s'appelle Le Melkin. Et donc, je me disais, mais comment il va représenter ce vaisseau université qui est le centre, qui est le véritable héros de la trilogie. Alors, là, on voit, c'est... Voilà, c'est le premier tome. Et alors, ce qui était formidable, c'est que Le Melkin apparaît sur cette couverture. Et en fait, c'est la petite flèche, enfin, c'est la traînée lumineuse du vaisseau qui part. Et c'est pour moi, c'était cette couve, je l'adore. J'ai acheté d'ailleurs l'illustration avec mes droits d'auteur, mirifique. Mais j'ai acheté parce que moi, je trouve ça très bien de la part de Manchu qu'il n'ait pas réussi, enfin qu'il n'ait pas voulu, qu'il ait trouvé quelque chose de mieux que de représenter le vaisseau. C'est-à-dire que le vaisseau, il reste à moi d'une certaine manière. Mais en même temps, pour le lecteur, il a transcrit ce qui était essentiel. Pour moi, pour le Melkin, c'est un vaisseau université, ce sont des nomades. C'est des gens qui voyagent. Est-ce que ce qui va rester pour les habitants, c'est-à-dire qu'ils auront ce vaisseau qui apparaît et qui va repartir. Et donc, c'est le voyage le souvenir du Melkin, ça va être uniquement cette traînée lumineuse. Donc, il a saisi pour moi l'essentiel de la trilogie. Voilà. Si je voulais décrire la trilogie, plutôt que des mots, la couve de Manchu du premier tome, elle résume toute la trilogie. Donc c'est l'exploit de l'illustrateur, voilà, d'avoir réussi avec ça, et que moi qui vraiment une émotion particulière quand j'ai eu cette couve.
Une belle symbiose. Laurent, il y a des choses dont on n'a pas du tout parlé. On n'a pas parlé de l'aspect la musique, par exemple, dont on peut avoir besoin pour écrire. Quels sont les sens qui sont en éveil chez toi quand tu crées ou dans tes univers?
Alors malheureusement non. Pas la musique. En fait, moi, j'écris en silence, de toute façon, ou alors avec de rares univers musicaux qui rappellent un petit peu, je sais plus qui a des Mongols, je crois que c'est toi. Donc, à un moment donné, j'ai aussi ce genre de civilisation dans quelque part. Et j'avais écouté beaucoup les chants pour voir, en écoutant les chants traditionnels d'un endroit, notamment ces fameux chants polyphoniques mongols, on s'imprègne d'une sorte de l'essence de l'esprit de cette civilisation, mieux que si on goûtait le plat de cervelle de yak ou je sais pas quoi. Voilà. Il faut se mettre dedans dans l'idée, effectivement, comme on disait aussi, de ne pas retranscrire que simplement l'image. C'est-à-dire que je me documente beaucoup lorsque je crée, quel que soit le type de civilisation, la nôtre plus tard ou une civilisation complètement inventée, je me documente beaucoup sur les choses qui pourraient être similaires à ça, des sensations qu'on peut avoir sur la Terre, et après je diverge par rapport à ça. Mais je m'imprègne d'une ambiance. Par exemple, avant de commencer un roman, je me dis, tiens, je commencerais bien ce truc par une scène, je sais pas quoi, une scène d'action, une scène de nature, une scène de sexe, hein, voilà. Et je me dis, il va falloir que je commence à l'écrire quand je la sente vraiment, la scène, quelle qu'elle soit, que ça soit l'univers, c'est pas simplement deux protagonistes ou trois ou quatre, suivant les goûts de chacun, c'est aussi l'environnement, c'est qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux, pourquoi est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils sont pas fatigués, qu'est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils sont fâchés, est-ce qu'ils sont pas fâchés, est-ce que dehors il pleut, est-ce qu'on entend la pluie, est-ce que ça imprègne l'ambiance, cette pluie, ou alors est-ce qu'il y a une sécheresse monstrueuse et ils sont au fond d'un chariot, je ne sais quoi. Donc, mais je ne commence jamais à écrire avant de m'être complètement imprégné du truc. Très souvent, j'écris sans ordinateur, sans papier, sans rien. J'écris quand je me couche le soir, j'ai un cahier à côté de moi, je me couche, et je vais rêver à mon histoire, je vais imaginer être un des personnages, n'importe lequel, je vais rêver être ce personnage jusqu'à ce que je possède ce personnage complètement, y compris son environnement, y compris ce qu'il a senti, ce qu'il a vu, ce qu'il a pensé, mais sans le dire, c'est-à-dire que c'est une espèce, il faut transformer ça en autre chose que le cinéma qui est obligé de vous faire voir des trucs pour vous les rendre réels. Là, il vaut mieux essayer de donner des indices, de donner des pistes pour que on s'imprègne d'autant plus de quelque chose qu'on ne vous a pas mis en pleine gueule en vous disant « Oui, il est rentré dans sa voiture de sport rouge en roulant des mécaniques et il avait les yeux bleus acier. » Genre, bon, c'est... voilà. C'est OK, ça dit ce que ça veut dire, mais c'est bon dans un bouquin d'espionnage des années 50, quoi. Ça le fait plus maintenant. Mais je vais boucler quand même sur un truc qui est super...
Parce qu'il est grand temps qu'on boucle, hein. On ouais, est en train de prendre du retard.
Oui, bah, ça suffit. Bon, ça va maintenant, hein. Donc, parce que vous avez parlé d'un truc important qui est la couverture. Toi, tu fais les tiennes, donc t'es pas déçu, n'est-ce pas? Toi, t'es parfois surprise, j'ai cru comprendre. Et toi, t'es ravi parce que c'était manchu. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai deux types de couvertures ici, voyez-vous. Donc, les deux réalisés, on ne le dirait pas
deux
par le
même artiste. Deux couvertures en une phrase, s'il te plaît, Laurent.
Deux couvertures en une phrase. Alors, celui-ci, par exemple, pour finir sur une note humoristique, voyez-vous, n'est absolument pas une brochure de Thomas Cook éditée par Harlequin. Hein, je tiens à le préciser. Ceci est un thriller de la pire espèce avec violence extrêmement destructrice, tout ça machin, basé sur une base historique. Donc, les couvertures, on est parfois surpris et parfois on a des envies de meurtre. Il faut le dire.
Bon, ben, je crois qu'on va terminer là-dessus. Vous avez entrevu leurs univers. Ils sont riches et contrastés. Si vous voulez les découvrir complètement, vous les retrouvez sous la bulle du livre. Ils seront heureux de vous les dédicacer. Et merci à vous tous. Ça a été un grand moment de plaisir.
Et ceci dit, j'adore Renan Toulouat, qui est un dessinateur de grand talent, qui fait la BD, notamment Bloc 109. D'accord, je rétablis une vérité. D'accord, j'adore ce mec. C'est un grand dessinateur, mais derrière un dessinateur, il y a parfois un éditeur. Et lui, il a une vision tout à fait différente du marketing d'un roman.